Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de l'heure du crime, avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès, et avec aujourd'hui Marc Bisset, aux manettes de technique de cette émission. À la une, vous l'avez entendu, on en parlait il y a un instant avec Christelle Rebière et notre ami Parizeau, il s'agit du Bugalet de Braise. Si j'avais dû trouver un titre pour cette émission, j'aurais dit Bugalet de Braise, le droit de savoir. On va revenir avec mes invités sur cette enquête fleuve qui dure depuis maintenant plus de 10 ans, avec la menace, car c'en est une pour les familles des marins disparus, de voir la justice clore le dossier sur un immense point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé en ce jour du 15 janvier 2004 Yann Kefelec est mon invité. Bonjour.
Bonjour Jacques Pradel.
Vous êtes depuis le début de ce drame l'un de ceux qui a travaillé, contribué aux recherches, aux hypothèses, et surtout à faire en sorte que ce drame ne sombre pas une deuxième fois dans le silence médiatique. Je voudrais juste vous poser une première question. On donnera des explications après, Yann Kefelec, mais pour vous, dans cette affaire, est-ce que il s'agit vraiment d'un mensonge d'État?
Alors, comme je déteste l'expression « mensonge d'État », je préférais lui substituer une autre expression, un secret de polichinelle pour toutes les marines européennes présentes le 15 janvier 2004, lorsque le Bugalet de Braise a fait naufrage. Vous avez parlé d'Omerta tout à l'heure. On a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de motus et bouche cousue, avec un air un tout petit peu gelé, comme si l'on savait, mais que l'on ne pouvait pas dire.
Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette Omerta?
Au début, moi, j'ai pensé que c'était une omerta, une sorte d'omerta chevaleresque. C'est-à-dire, les marines s'entraînent ensemble, elles sont tenues au secret. Lorsque l'une vient à commettre une faute, les autres se taisent. Depuis, je suis allé un tout petit peu plus loin dans mes recherches, et je crois plutôt qu'il s'agirait d'un sentiment de peur, ce qui pourrait étayer la thèse de la piste américaine. Mmh. Les différents États européens, s'il venait à être démontré qu'un submersible américain était en cause, ne peuvent pas se permettre une brouille avec ce formidable allié.
Voilà. Alors,
entre guillemets.
Je fais référence, d'ailleurs, quand je parle de mensonge d'État, mais c'est vrai que vous n'employez pas l'expression, mais celui de secret de polichinelle, je me réfère évidemment à votre livre. On l'appelait Bugalet de Braise, paru le 15 janvier, anniversaire des 10 ans du drame, aux éditions de l'Archipel. Vous aviez publié un premier livre pour faire l'état de l'enquête après les premières années de questions, d'interrogations autour de ce mystère. Et là, eh bien, comme on dit, c'est une édition revue augmentée et très fouillée, bien sûr, sur toutes les questions qui se posent actuellement.
Avec un complément d'enquête signé par le journaliste Pascal Baudéré du Télégramme de Brest, qui depuis le 15 janvier 2004 suit pas à pas cette histoire, et je dois dire que sa présence dans ce livre est extrêmement précieuse pour la compréhension de l'affaire.
Alors dans ce livre, il y a un appel également au président de la République, un appel à François Hollande. Pouvez-vous nous rappeler les termes de cet appel et puis surtout nous dire s'il a été entendu?
Oh, mais les termes de cet appel sont extrêmement simples. Comme vous le savez, il y a eu une grande réunion des chefs d'État européens l'été dernier, et avec la présence de Barack Obama comme une sorte d'invité d'honneur, et l'on espérait que serait évoqué le problème à la fois de l'espionnage pratiqué par les Américains auprès dans le monde entier, notamment sur le portable d'Angela Merkel, mais également que les yeux dans les yeux, un chef d'État aurait le courage de demander à Barack Obama ce qu'il en était de la présence.
Y avait-il ou non un sous-marin américain dans la zone où le Bugalet de Braise a sombré en 2004?
Lorsque la justice française a souhaité obtenir ce renseignement de la part de l'US Navy, l'US Navy a répondu immédiatement non. Mais on sait très bien qu'il est d'usage courant que les sous-marins se prêtent à des opérations extérieures, des opérations d'espionnage, affrété par la CIA, par la NSA ou par le gouvernement américain lui-même. Le seul habilité à répondre à cette question, c'était Barack Obama. Lorsque François Hollande, en janvier dernier, a été invité par les États-Unis, on pouvait espérer qu'il aurait l'occasion de demander à Barack Obama si un sous-marin américain était présent sur la zone, d'où le sens de cette lettre. On lui demande clairement donc de poser la question à Barack Obama. Hélas, François Hollande n'a pas répondu à cette lettre et j'ignore, je ne pense pas qu'il ait jamais posé la question au président américain.
Il y aura peut-être une autre occasion au moment des festivités autour de l'anniversaire du débarquement. Hein, finalement, c'est pas très loin. C'est une idée que je vous donne comme ça.
D'autres naufrages.
Au passage. Alors, nous allons donc revenir point par point sur tous les éléments qui ont été, toutes les hypothèses qui ont été émises depuis le début de ce drame. On va le faire avec vous, bien sûr. Tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, avec Jacques Lauzet. Jacques Lauzet est l'auteur du livre Bugalette-Braise, l'enquête torpillée, qui est paru aux éditions Locus Solus. Et il est également le réalisateur d'un film que j'ai vu, découvert personnellement hier soir en préparant cette émission, The Silent Killer en anglais, traduction française, Le Tueur Silencieux. C'est un documentaire donc sur le même sujet. Et puis nous aurons à la fin de l'émission Maître Dominique Tricot, l'avocat de Thierry Lemaitrier, qui est le fils du mécanicien disparu dans le naufrage du Bugalette-Braise avec ses quatre autres camarades. Maître Dominique Tricot est avocat au barreau de Paris. On lui demandera de faire un point judiciaire parce que il y a une menace de classer l'affaire, mais pour l'instant, vous me confirmez que elle
l'affaire
n'a pas
n'est
été
pas classée. Voilà. Le juge a pris ses réquisitions.
N'a pas été, voilà.
Mais enfin, mais on s'achemine incontestablement. On est dans la logique infernale du classement par non-lieu.
Voilà, et je voudrais aussi aujourd'hui dire qu'il y a le dossier technique, bien sûr, on va beaucoup en parler, mais derrière tout ça, il y a la détresse des familles, il y a la détresse des proches de l'équipage du Bugalette-Braise, et il est peut-être bon de rappeler qui était à bord de ce bateau, Pascal Le Floch, 50 ans, matelot de Riantec, le commandant en second du Bugalette, Yves Gloaguin, 45 ans, qui remplaçait pour cette marée le propriétaire du bateau, l'armateur Michel Ladouce, qui a
Michel Douce,
et qui lui était resté à terre au cours de cette campagne de pêche pour des raisons médicales. Et puis il y avait aussi le chef mécano Lemaitrier, 60 ans, et deux autres marins, Patrick Gloaguin, 35 ans, et Éric Guillaumet, 48 ans. Ils étaient tous des habitués de la pêche en Manche et en mer d'Irlande. Et c'est important de le préciser maintenant. Ils savaient se comporter dans une tempête éventuelle. On va entendre tout de suite un premier document RTL. Ce premier document a été diffusé sur notre antenne le 15 janvier, le 16 janvier, c'est-à-dire le lendemain du naufrage au large des côtes anglaises du Bugalette-Braise. Et sur RTL, le correspondant de la rédaction Grande-Bretagne, Daniel Caron, donnait, vous allez l'entendre, les premières explications qu'il avait pu recueillir auprès des autorités.
Le chalutier s'abritait de la tempête dans le petit port de New Lynn depuis le début de la semaine. Il était reparti mercredi, il devait rentrer samedi à Loctudy. Hier, à 12h40, dans une mer avec des creux de 7 mètres et des vents soufflant à 100 km/h, le Bugalette-Braise, avec 5 hommes à bord, chavire et sombre. Un autre chalutier donne l'alerte. Une importante opération de secours est lancée avec 2 hélicoptères, 2 canots de sauvetage, un remorqueur, des bateaux de pêche se trouvant à proximité. Moins d'une heure après, un hélicoptère de la Royal Navy remonte 2 corps qui flottaient près de l'endroit où le Bugalette-Braise avait sombré. Les 2 malheureux n'avaient pas eu le temps de mettre leur gilet de sauvetage. Nous sommes arrivés rapidement. Je suis sûr que nous aurions pu les sauver s'ils avaient eu leur gilet, a dit le pilote de l'hélicoptère. À 17h15, la nuit arrêtait les opérations de recherche. Les sauveteurs avaient repéré un radeau de survie du chalutier, vide, un gilet de sauvetage, quelques débris et une tache d'huile sur la mer démontée.
Alors nous allons faire une première pause dans cette émission et revenir sur ces informations qu'on avait fournies à l'ensemble de la presse et donc en particulier à notre correspondant Daniel Caron au lendemain du naufrage. Or il se trouve qu'un bon nombre de ces informations sont mises en cause très clairement à la fois par Yann Kefelec dans son livre et par l'ensemble des personnes qui se sont exprimées depuis maintenant avec le recul de l'enquête. On y revient dans un instant. Bien sûr, si vous voulez vous exprimer, poser des questions, nous faire part de vos réactions, voire de vos témoignages, vous pouvez appeler le 3210 pour le téléphone ou nous envoyer des courriels par rtl.fr.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Bugalet, Braise, retour sur le naufrage mystérieux de ce chalutier 10 ans et un peu plus de 2 mois après ce drame qui a lieu en janvier 2004, 15 janvier 2004 très exactement. On en parle en ce moment avec Yann Kefelec. On a entendu Daniel Caron, donc le correspondant d'RTL, le lendemain, avec les informations, comme je disais, qui avaient été fournies par les autorités. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Yann Kefelec?
On peut dire que Daniel Caron fait excellemment son travail et qu'on comprend parfaitement ce qui s'est passé. Simplement, il y a un certain nombre de faits qui sont totalement erronés, notamment s'agissant de l'état de la mer. Déjà, on induit l'auditeur, l'opinion en erreur. On laisse imaginer que le bateau a pu couler par fortune de mer parce que la mer était...
135 km/h, mer démontée. C'était pas la situation météo?
Non, je veux dire un vent de 4 à 5. C'était au contraire des conditions tout à fait normales pour avoir ces engins de pêche à l'eau et pour un navire de la taille et de la puissance du Bugalet de Braise. Donc ça rend totalement impossible déjà un naufrage par fortune de mer. Daniel Caron parle des moyens techniques mis à la disposition du naufrage, le jour du naufrage. Il ne parle absolument pas du sous-marin hollandais, le Dolphin, qui s'est mis à tourner autour du lieu du naufrage du Bugalet de Braise.
Il y a une bonne raison, c'est que l'information n'est pas sortie quand il parle.
Tout à fait, mais bien sûr, ce sont des choses qu'on a découvert après, mais il est important de le dire aujourd'hui, parce que c'est ce même Dolphin qui a pu transmettre cette information au Coast Guard anglais. « We have pickled two people », ce qui veut dire que le Dolphin a récupéré 2 corps dont on n'a plus jamais entendu parler par la suite. Mmh. Et lorsqu'il s'est agi au procès de faire état de ce document envoyé par le Dolphin, la justice française a répondu qu'elle n'était pas en mesure de traduire ce message.
Alors, on reviendra aussi certainement avec vous ou avec Jacques Lauzet tout à l'heure sur l'énigme du radeau de sauvetage, parce qu'on va ce radeau dont bien il sûr. Est question dans le papier de Daniel Caron, c'est un radeau rouge, le Bugalet de Braise n'avait pas de radeau rouge, et par contre, le capitaine de l'autre bateau de pêche qui était
l'Éridan,
a vu lui un hélicoptère survoler ce canot.
Tout l'équipage de l'Éridan, lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu du naufrage, tous sont à l'unanimité disent avoir vu un canot rouge. Alors qu'il s'agissait d'un canot orange à bord du Bugalet de Braise,
oui. Mmh.
Et on ne peut pas imaginer qu'ils soient tous totalement daltoniens.
Voilà. Et ils ont vu aussi descendre des plongeurs qui ont été élitreillés pour descendre sur ce radeau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
Eh bien, ce plongeur, Brian Hall, a coulé, donc a fait disparaître finalement une pièce à conviction. Mmh. Et on a fait passer les marins de l'Éridan ensuite pour des gens qui n'y voyaient pas clair.
Alors, on va continuer à revenir sur tout le déroulé de cette affaire. On est le 20 janvier maintenant. 20 janvier 2004, 5 jours donc après le naufrage. Des révélations, les premières révélations qui provoquent d'ailleurs une sacrée colère en Bretagne. Pourquoi? Parce que le procureur de la République de Quimper dit que le navire n'a pas été victime de la tempête, donc on a changé de version, mais qu'il a été éperonné par un bateau de commerce qui aurait pris la fuite. Un cargo voyou, autrement dit. On va écouter Patrice Gabart, le correspondant d'RTL dans l'Ouest de la France, qui revenait sur ces tout derniers éléments dans le journal de 7h du matin le 20 janvier.
C'est une avancée importante dans l'enquête. Au moment du naufrage, le Bugalet de Braise, en action de pêche, donc avec ses chaluts en position, faisait route vers le sud-est. Le point de collision à l'avant-droit du bateau et les traces de ripage, toujours sur le côté droit de la coque, indiquent donc, selon les enquêteurs, que l'autre navire, le navire de commerce, remontait la Manche dans l'autre sens. Les recherches se dirigent par conséquent vers le nord de l'Europe, dans un port au-dessus du Cap Lizard. Des recherches difficiles, car le territoire est immense, il s'étend jusqu'à Saint-Pétersbourg. Les autorités françaises peuvent néanmoins compter sur le mémorandum de Paris, un accord signé par la plupart des ports européens en 1982, un accord qui prévoit des échanges d'informations, en particulier après un tel drame. Les centres de sécurité sont invités à ouvrir l'œil et à signaler tout navire qui présenterait des traces de collision. En attendant, les gendarmes maritimes épluchent déjà une première liste de 500 à 600 noms de navires de commerce qui sont passés ce jour-là dans le périmètre de surveillance du Cross Greenet dans le Pas-de-Calais, avec pour mission de repérer ceux dont l'itinéraire jongle avec le Cap Lizard. Cela représente en moyenne une centaine de bateaux par jour, des bateaux qui viendraient plutôt, selon les grands axes du trafic maritime international, du Panama ou d'Amérique du Nord. Ce sont là les premières hypothèses d'une enquête difficile certes, mais qui devrait se préciser dans les 48 heures.
Alors là, Yann Kefelec, on est 5 jours après le naufrage et évidemment cette hypothèse du cargo voyou est une hypothèse qui tient la route, apparemment. On va le retrouver, ce bateau?
Oui, alors là, déjà, ça devient une vaste fumisterie, parce que il fallait absolument donner du grain à moudre à cette hypothèse. Il fallait calmer les familles, il fallait calmer l'opinion, il fallait donner l'impression qu'on avançait dans l'enquête et qu'on ne restait pas les bras ballants, alors qu'on y comprenait absolument rien ou qu'on ne voulait rien dire. Donc c'était un excellent moyen de chercher du temps que d'aller chercher au bout du monde, que d'aller retrouver au bout du monde un éventuel cargo épreneur, le Seattle Trader de couleur orange, qui aurait abordé le Bugalet Braz. Mmh. Il se trouve que ce navire est passé finalement à 40 km du Bugalet Braz, qui n'avait aucune chance de lui faire le moindre mal. Et lorsque les gendarmes français sont arrivés dans je ne sais plus quel petit port du fin fond de la Chine, eh bien, ils sont tombés sur un navire qui n'avait strictement rien à se reprocher quant à l'état de sa coque.
Donc, pour vous et pour d'autres qui travaillent sur cette affaire, il s'agit là d'un enfumage, quoi.
Alors, il s'agit d'un enfumage pur et simple. Enfin, c'est aussi ridicule que l'affaire des avions renifleurs. On sait très bien qu'on a donné cet os à ronger aux médias.
Ouais. Mais on se basait quand même à l'époque sur le fait qu'on avait envoyé un sous-marin filmer l'épave du Bugalet Braz et qu'on avait vu des traces d'enfoncement et qui semblaient justifier l'hypothèse de l'abordage.
On avait photographié un seul côté du bateau. Quant à ces traces d'enfoncement, elles étaient extrêmement bizarres, comme on l'a constaté lorsque le navire a été renfloué, parce qu'il s'agit de deux enfoncements symétriques. Il s'agit en réalité d'une implosion due à la vitesse de naufrage du navire. Et la seule explication possible, c'est en effet que ce bateau se soit enfoncé dans la mer à la vitesse d'une balle de fusil. C'est l'expression qui a été employée. Hein. C'est bien entendu, ça ne correspond pas à la réalité, mais ça veut dire que ce bateau a été remorqué par le fond extrêmement rapidement et vraisemblablement par cette force exogène auquel on ne veut pas encore donner le nom de sous-marin.
Le 9 juillet 2004, donc presque six mois après le naufrage, l'épave du Bugalet Braz va être remontée à la surface. On va faire les constatations dont vous venez de parler. On va également découvrir un corps, un seul, dans cette épave. Et comme vous le disiez tout à l'heure, deux autres des marins du Bugalet Braz ne seront jamais retrouvés. Dans un instant, après une pause, on va vous retrouver, bien sûr, retrouver également Jacques Lauzet, l'auteur de ce tueur silencieux, ce film qui va dans le sens de l'hypothèse, comme vous, hein, du sous-marin nucléaire qui se serait pris dans les câbles traînant le filet du bateau et qui l'aurait emmené au fond en, je crois, 37 secondes.
Oui, aspiré littéralement vers le fond. Quoi. Il sera arrivé au fond à la vitesse du sous-marin lui-même.
Et rien ne peut expliquer qu'un bateau sombre aussi rapidement, sinon cette hypothèse. Donc, tout de suite une pause et on se retrouve tout immédiatement après.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Nous sommes en compagnie de Yann Kefelec, dont je rappelle l'ouvrage sorti pour les 10 ans du naufrage du Bugalet Braz. On l'appelait Bugalet Braz, c'est un livre qui est paru aux éditions de l'Archipel, en coédition, je crois, avec les éditions du Rocher. Et puis, dans un instant, on va parler d'un autre livre, qui est plus un livret d'ailleurs qu'un livre, signé Jacques Lauzet, dont on va avoir l'auteur au téléphone dans un instant. L'enquête torpillée, c'est le titre de ce livre, préfacé par Michel Douce, donc le patron, enfin le,
oui, l'armateur.
L'armateur, merci Yann Kefelec. Et Jacques Lauzet est également l'auteur d'un film qui s'intitule The Silent Killer, le tueur silencieux. Avant de lui donner la parole, on va écouter un autre document RTL qui date du 14 juillet 2004. Donc, souvenons-nous, 9 juillet, presque 6 mois après le naufrage, on remonte le bateau à la surface. Le 14 juillet, il est à terre. On l'a enfin mis à terre pour être examiné par les experts afin de déterminer ou de tenter de déterminer la cause réelle du naufrage. Et ce jour-là, ce 14 juillet 2004, pour la première fois, la justice admet la possibilité d'un choc avec un sous-marin, alors que jusqu'à présent, rappelons-le, on parlait de la tempête, l'erreur de pilotage, la fatalité, le cargo voyou. Et bien maintenant, on en vient au sous-marin. Écoutez pourquoi et comment Nicolas Bobby fait le point de ce 14 juillet dans RTL Matin, après avoir rencontré à ce sujet le procureur de la République de Quimper.
Après 6 mois au fond des abysses, l'épave est étonnamment bien conservée, ce qui devrait aider le travail des experts afin de lever le mystère sur ce naufrage. Roland Hesch, le procureur de Quimper.
Des deux côtés de l'épave, il y a deux traces extrêmement fortes de choc, des coups de boutoir, je dirais presque, hein, d'enfoncement. Ça démontre à quel point, quand même, il me paraît difficile que le navire éventuellement abordeur ne se soit pas rendu compte de ce qu'il a fait.
Toutes les hypothèses, toutes les pistes sont ouvertes. Aujourd'hui, le procureur nuance ses propos.
Je ne serai plus aussi catégorique et aussi affirmatif qu'au départ pour dire il est à peu près certain que ce bateau a coulé parce qu'il a été abordé brutalement par un très gros navire de commerce. Et c'est au vu des nouveaux éléments que je révise ma position. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais les techniciens, les experts ne l'excluront pas, le juge d'instruction ne l'exclura pas, l'hypothèse éventuelle d'un choc avec un sous-marin, éventuellement une explosion interne, une défaillance mécanique quelconque, voire une surcharge du navire, enfin je ne sais pas. Il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles.
À première vue, pas de traces suspectes de peinture sur la coque, une simulation informatique du naufrage sera réalisée.
Un mot, oui, vous voulez dire un mot, Yann Kefelec.
J'aime beaucoup le ton de fermeté définitive de la part de Roland Hesch, à la fois quand il se trompe et à la fois quand il fait semblant de se corriger. Parce que ce qu'il ne dit absolument pas, c'est qu'il y a deux coups de boutoir, pour reprendre son expression, symétrique de part et d'autre de l'étrave du navire, ce qui semblerait prouver, si vous voulez, qu'il a été abordé exactement au même moment par deux sous-marins de même tonnage venant prendre en étau le Bugalet Braise. Ouais. C'est absurde.
Alors, justement, puisque vous dites c'est absurde, on va demander des explications à Jacques Lauzet. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Oui, alors j'ai revu, je le disais tout à l'heure, hier soir, pour préparer cette émission, votre film de Silent Killer, qui privilégie évidemment l'hypothèse de l'accident avec un sous-marin nucléaire vraisemblablement, peut-être anglais, peut-être américain, mais ça, on y viendra tout à l'heure avec Yann Kefelec. Mais d'un mot, peut-être vous pouvez nous expliquer, puisque vous le montrez dans votre film, vous avez fait une sorte de reconstitution de cette hypothèse d'un sous-marin qui se prend dans le... non pas dans le filet d'ailleurs du bateau, mais dans un des câbles qui tracte ce filet sur le fond de la mer. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça a pu se passer ?
Oui, alors il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que je n'ai pas fait un film pour étayer une thèse qui serait la version du sous-marin, qui serait aussi appelé communément, et ça on s'en attriste beaucoup, comme la thèse des familles. La version du sous-marin n'est pas simplement une hypothèse.
Bien sûr.
Elle résulte d'un jugement qui est intervenu en 2008, et ce jugement n'a pas été contredit depuis.
Et d'ailleurs, vous diffusez dans votre film beaucoup de documents qui viennent de chaînes de télévision qui elles-mêmes ont enquêté depuis toutes ces années sur le problème. Donc, quand on imagine que le sous-marin, il navigue entre deux eaux aux alentours de 40 mètres de profondeur, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et il se prend, en fait, à l'arrière du sous-marin. Il n'y a pas de choc avec la coque du bateau.
Voilà, il n'y a pas du tout d'abordage comme on a pu le penser, comme on a pu en faire l'hypothèse lorsqu'il s'agissait d'un cargo. Là, au contraire, il s'agit d'un sous-marin qui navigue effectivement entre deux eaux et qui prend un de ses appareaux, son gouvernail ou cette barre de stabilisation, qui accroche le câble lorsqu'il fait sa descente. Et à ce moment-là, il y a une différence énorme de masse. Il faut imaginer le Bugalet Braise, il fait 150 tonnes, 200 peut-être lorsqu'il est chargé. Et là, on parle de milliers de tonnes en ce qui concerne le sous-marin. Et la vitesse est également hors de proportion, puisque l'un fait du 3 nœuds à l'heure, du 3 nœuds, et vous avez le sous-marin qui peut aller de 20 à 35 nœuds.
C'est ça, si on met ça en kilomètre heure, c'est 400 kilomètres heure pour le bateau de surface et 60 à 70 kilomètres heure.
Le sous-marin n'allait pas à 30 nœuds dans des fonds de 80 mètres de profondeur, je pense que Jacques Lauzet.
Oui.
Non, mais c'est une théorie. Normalement, moi j'ai un commandant sous-marin qui m'a dit que la vitesse de croisière de certains sous-marins, c'était 50 mètres de profondeur et de 20 à 30 nœuds.
D'accord. Alors, je reviens à vous dans un instant, mais d'abord, on va entendre un extrait de votre film qui m'a beaucoup frappé, parce que il faut dire que les différentes autorités militaires maritimes sont toujours restées très floues sur la possibilité qu'un sous-marin, on disait au début, mais jamais un sous-marin comme ça n'est pêché, si j'ose dire, par un chalutier. Or, en fait, les différentes enquêtes vont montrer que c'est beaucoup plus habituel que on ne le pensait au début. Et alors, vous diffusez le témoignage de ce patron pêcheur qui a navigué pendant 30 ans, qui s'appelle Elie Persley. On va l'écouter. Il raconte comment il a été un jour pêché, lui aussi, par un sous-marin, mais il a survécu.
Le bateau est parti en marche arrière. Automatiquement, je me suis douté que c'était un sous-marin qui nous avait accroché. Heureusement que la mer était d'huile, alors il n'y avait pas 5 nœuds de vent. Mais ça a commencé à embarquer des deux ou trois petits paquets de mer par l'arrière. Pendant une heure, le sous-marin nous a traînés après lui. Quand il a fait surface, j'ai vu le panneau, les deux panneaux, et le chalut, tout le matériel de pêche qui était sur le sous-marin, accroché au sous-marin. Et à peine il a fait surface, il y a au moins une douzaine de plongeurs. La première chose, ils ont plongé sous le sous-marin pour voir qu'est-ce qu'il y avait, s'il n'y avait pas de dégâts sous le sous-marin.
En gros, t'as pêché un sous-marin.
On a pêché un sous-marin, oui.
D'ailleurs, je vous recommande vivement ce film qui existe en DVD parce que ce même homme a pêché un deuxième sous-marin, une autre fois, de nuit cette fois, et dans des conditions beaucoup plus difficiles, et il considère que le fait d'avoir survécu est un véritable miracle. Je vous remercie beaucoup, Jacques Lozet. Je renvoie tout le monde à votre livre, le Bugalet-Braise, l'enquête torpillée, et également ce film, de Silent Killer, le tueur silencieux. On fait une pause.
Je précise quand même.
Oui, je vous en prie.
C'est pas disponible en DVD. Hein.
Ah, quel dommage.
Non. Pour des raisons simplement de copyright.
Ah, évidemment, de droit. Bon, on peut voir des extraits.
Oui. Dans les salles des projections débat, comme on l'appelle.
Ah bon, d'accord, mais on peut le voir à ce moment-là. Et on trouve sur Internet le calendrier de ces diffusions.
On a des projections jusqu'au mois d'août, il n'y a pas de problème.
D'accord, donc qu'est-ce qu'on tape sur Internet? Enquête torpillée ou Silent Killer?
Bugalet-Braise.org.
D'accord, bugalet-Braise.org. Eh bien, je vous remercie beaucoup de cette précision, parce que je pense qu'il est important que beaucoup, beaucoup de gens puissent voir ce document. Une pause donc tout de suite, et on retrouve Yann Kefelec dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous retrouvons maintenant Yann Kefelec pour parler de cette hypothèse du sous-marin, parce que, comme le rappelait Jacques Lozet tout à l'heure, ce n'est pas une hypothèse comme ça en l'air qui a été jetée, ou une hypothèse à laquelle se raccrocheraient des familles en détresse. Il y a des experts réputés qui sont allés dans ce sens-là, et comme le disait Lozet, une décision de justice. Alors, on va écouter un document RTL avant d'aller plus loin avec Yann Kefelec sur l'origine éventuelle de sous-marin, un document du 9 juillet 2005. Ce jour-là, on apprend que selon l'expert Dominique Salles, l'implication d'un sous-marin est, je cite, la cause la plus probable du naufrage. Un rapport remis donc à la justice. Un submersible nucléaire d'attaque se serait pris, selon l'expert, involontairement dans le chalut. Il aurait entraîné le navire vers le fond en tentant de se dégager. Sur RTL, Patrice Gabart, notre correspondant en Bretagne, faisait le point sur cette question dans l'édition du journal de 7h du matin.
Le train de pêche du Bugalet-Braise a parlé. En effet, selon deux experts européens, des traces de ragage sur l'un des câbles et le croisement des deux panneaux du chalut indiquent qu'une force exogène, en clair une croche par un sous-marin, est à l'origine du naufrage. Christian Bergotte, l'avocat du comité des pêches du Guilvinec.
Cette croche a eu lieu entre 20 mètres et 40 mètres. Donc ça n'a pas eu lieu au fond, ça n'a pas eu lieu en surface, ça a eu lieu dans une situation intermédiaire, et je ne vois pas d'autre engin qui peut naviguer sous l'eau qu'un sous-marin à cette hauteur-là.
Plus prudente, la justice n'écarte pas l'hypothèse d'une éventuelle voie d'eau. Mais pour les familles des victimes, persuadées depuis bien longtemps que le coupable est un sous-marin, l'enquête officielle prend désormais le bon cap. Bertrand Le Floc, le frère de l'une des victimes.
Oh, on va de l'avant là, honnêtement oui, ça nous a fait du bien quand même. Mais maintenant il faut que ça aille au-dessus, quoi. Il faut que les politiques s'en mêlent, il faut que le gouvernement bouge, il faut que le gouvernement bouge. Nous on veut savoir qui les a tués, point final, on veut savoir qui c'est qui les a tués.
Ah oui, là on est le 9 juillet 2005. Il faut dire que les familles tomberont de très haut un peu plus d'un an après. 27 novembre 2006, Yann Kefelec, quand le BEA, BEA ça veut dire Bureau Enquête Accident, le BEA maire, va rendre son rapport à la justice. Et là on va découvrir qu'il ne retient ce Bureau d'Enquête Accident que la thèse de l'accident de pêche.
Ça, alors, c'est scandaleux.
Dans votre livre, on l'appelait Bugalette Braise, vous revenez très longuement sur ce qui est plus qu'une hypothèse, quoi, l'accident causé par un sous-marin. Mais quel sous-marin ?
Alors déjà, pour revenir un instant sur le témoignage tout à l'heure du pêcheur Elsie Perceret, si j'ai bien compris,
oui.
J'ai trouvé passionnant d'ailleurs d'entendre en direct un pêcheur comme ça faire savoir qu'il avait été crashé par un sous-marin.
Elsie Perceret avait été remonté par un sous-marin.
Parce que plusieurs pêcheurs m'ont déjà dit ça. Or, lorsqu'on entend les officiels, hein, les marins, ils disent « ça n'arrive jamais ».
Marin de la Marine Royale, je veux dire.
Par exemple, si ça n'arrive jamais. Cela dit, justement, à la décharge de la Marine Royale, comme vous dites, de la Marine Française, s'est toujours manifesté lorsqu'il lui était arrivé de se prendre les engins de pêche d'un sous-marin. Mmh. Il le prouve bien, d'ailleurs, Elie. Il part de ce sous-marin qui a fait surface immédiatement pour dire qu'il était à l'origine de cet accident. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que des pêcheurs régulièrement sont aspirés par le fond, par des sous-marins. Ensuite, ce qui m'intéresse vivement, c'est de voir que cette thèse de la piste sous-marine a enfin pu être explorée grâce à un ancien chef de la force sous-marine française, grâce à Dominique Salles, expert sous-marinier, qui, ne faisant pas jouer son esprit de corps, son esprit de solidarité, a dit « ça ne peut être qu'un sous-marin ». Et ce même Dominique Salles continue à soutenir l'hypothèse obligatoire, inéluctable, du sous-marin aujourd'hui.
Et du sous-marin lanceur d'engins, à cause de la vitesse et de la rapidité du naufrage. Alors maintenant, il s'agit de savoir de quel sous-marin il est question. Il y avait, on l'a dit, on l'a compris, des manœuvres de l'OTAN qui devaient commencer officiellement le lendemain, mais qui peut-être avaient commencé la veille. Donc ça reste... on est dans le flou, là, des
on
autorités.
On est dans le demi-flou. Il y a deux noms qu'il faut retenir. Il y a l'ASWEX 04, qui est l'entraînement des sous-marins européens, là, à l'ouvert de la Manche, et la veille, il y a le jeudi de la guerre, le Thursday War, qui est une manœuvre britannique, au cours de laquelle les sous-marins britanniques, exclusivement britanniques, s'entraînent à la guerre.
Alors, s'entraîner à la guerre pour un sous-marin, c'est chercher à se réfugier sous la coque notamment d'un bateau de pêche, parce que c'est le bruit qui est enregistré par les sonars, c'est le bruit de la pêche, le bruit du moteur du chalutier, pas celui du sous-marin.
Bien entendu, il ne s'agit pas de se faire la guerre. D'abord, ils n'ont pas les moyens même de simuler la moindre guerre. En revanche, ils font des tests, entre autres des tests de furtivité.
Voilà.
Il y avait d'ailleurs, et ça c'est intéressant parce qu'on va le retrouver dans la suite de l'histoire, il y avait le sous-marin anglais Turbulent qui était censé rester à quai ce jour-là et le lendemain, qui en réalité avait été chargé par la marine britannique elle-même d'une mission d'espionnage au sein des sous-marins britanniques eux-mêmes afin de voir si leur propre sous-marin était capable de détecter un des leurs en espionnage.
Alors évidemment, les autorités britanniques ont toujours nié que ce sous-marin ait été en mer le 15 janvier, le jour du naufrage du Bugalette Braise, mais on a su, mais ça je renvoie tout le monde à votre livre, au film dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a eu des réparations de fait sur ce bateau-là. Sont-elles ou pas dues à un accrochage avec le Bugalette Braise ? Personne n'est en mesure de le dire pour l'instant. Je voudrais qu'on prenne encore deux minutes pour parler de l'autre hypothèse, celle du sous-marin américain. Vous en avez parlé un peu au début de l'émission. Qu'est-ce qu'un sous-marin américain viendrait faire dans des manœuvres d'armée européenne ?
Alors j'ai longtemps pensé que le Turbulent était forcément le sous-marin en cause, et d'ailleurs je pense qu'il y est un petit peu en cause, ou en tout cas que le commandant Andrew Coles, surnommé le capitaine Lourdeau par ses confrères britanniques, parce qu'il s'échoue souvent et qu'il a échoué récemment le plus grand submersible lance-engin européen sur une petite île où on voyait les familles anglaises venir pousser le landau autour de ce sous-marin qui n'est même pas censé exister, parce qu'un sous-marin, il faut le savoir, c'est un fantôme, on ne sait pas qu'il existe.
Qui est une centrale atomique. Hein,
je pense qu'il est gardien de phare ou gardien de balise aujourd'hui entre l'Irlande et l'Angleterre. Ouais. La piste américaine, serait plutôt la piste que je privilégierais aujourd'hui, qui est une piste assez passionnante, qui remonte... ça remonte à l'époque où les Américains et les Russes ont pris des accords de démantèlement de leurs ogives nucléaires et qu'il y a eu des transports de plutonium entre Cherbourg, entre la France et les États-Unis afin justement de faire démilitariser du plutonium.
Et à ce moment-là, on charge ces déchets nucléaires, on va dire, pour aller vite, sur des cargos qui vont traverser l'Atlantique et un sous-marin américain, peut-être pour sécuriser le transport, en tout cas pour l'observer, peut accompagner silencieusement, sans être vu, le bateau. Je vais vous laisser donner toutes les explications dans un instant, mais là je suis obligé de faire une petite pause. On va la faire la plus brève possible parce que ce que vous dites est passionnant. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Bugalet-Braise, le droit de savoir, c'est une émission spéciale de l'heure du crime consacrée à cette enquête qui est en train de se solder par un immense point d'interrogation, puisqu'on l'a dit, la justice envisage, elle l'a fait savoir, de clore l'enquête. On va en parler dans un instant avec maître Dominique Tricot, l'avocat de Thierry Lemétayer, le fils du mécanicien du Bugalet-Braise. Mais d'abord, je reviens à vous, Yann Kefelec, pour donc les explications que vous apprêtiez à nous donner il y a un tout petit instant sur cette histoire de sous-marin américain qui aurait été planqué dans le coin, donc pas loin évidemment de là où d'abord il y avait les fameuses manœuvres, mais en même temps où allait arriver un cargo chargé de matière nucléaire qui allait traverser l'Atlantique.
Alors il faut savoir qu'en 2004, les États-Unis étaient en guerre avec le monde entier. Il y a eu l'affaire des Twin Towers. Il y avait eu l'affaire d'un de leurs destroyers pétardé par Al-Qaïda. Il y avait également eu un pétrolier français, lui-même pétardé par Al-Qaïda. Les Américains étaient comme des fous, ne connaissaient plus ni alliés ni personne. Ce qu'ils voulaient d'abord, c'est se sanctuariser à nouveau. Rappelez-vous, c'était l'époque du grand bouclier qui devait les protéger. Et ils ne voulaient plus savoir qui les aimait, qui ne les aimait pas. Ils avaient décidé, comme ça, d'obtenir gain de cause. Lorsqu'il s'est agi de faire démilitariser leur plutonium, une seule usine de retraitement était capable de le faire, c'était l'usine française de la Hague. Et ce jour-là devait être acheminé, le 15 janvier 2004, devait être acheminé de Cherbourg vers le Japon, du plutonium, lui-même démilitarisé pour les Japonais. Les Américains, en prévision de leur propre transport de matière nucléaire, étaient venus s'assurer que ce transport se faisait dans des conditions correctes du point de vue de la sécurité et qu'Al-Qaïda, dont les moyens navals étaient considérables, ils s'en étaient rendus compte à ce moment-là, ne risquait pas de s'emparer du navire et de partir avec le plutonium.
Alors, cela dit, ça a été démenti, évidemment, par les États-Unis qui ont dit, on n'a jamais envoyé de sous-marin. Alors, pourquoi on en parle? Si, les Américains n'ont pas, en tout cas, le Pentagone a toujours dit qu'il n'y avait pas de sous-marin américain.
Non, le Pentagone n'a rien dit du tout. La marine, les autorités françaises, la justice française a interrogé l'US Navy a répondu, parce que c'est pas son rôle d'ailleurs, elle a répondu non, mais elle sait très bien, l'US Navy, que des sous-marins nucléaires sont régulièrement affrétés. Voilà.
Mais ça c'est top secret quoi.
Ça c'est archi top secret, et un seul interlocuteur est possible dans ce cas-là, c'est la CIA, la NSA ou le président lui-même.
Mais encore une question sur ce sujet, avant de prendre maître Dominique Tricot au téléphone. Pourquoi on en parle de cette hypothèse du sous-marin américain? Parce qu'il y a une fuite. Quelqu'un en a parlé au départ.
Simplement, on ne peut pas le dire. Il y a évidemment un certain nombre de points qui renforcent.
Un journaliste qui a sorti l'information.
Un journaliste qui a sorti l'information, mais ce n'est pas lui qui a imaginé les faits. Bien entendu, ça, il y a de très fortes chances pour que ce sous-marin américain, on connaîtrait même son nom, ait été présent. Donc le 15 janvier 2004, et que ses amis britanniques, puisque les Britanniques marchent dans la main avec les Américains, étaient au courant.
D'accord. D'où votre appel à François Hollande pour qu'il intervienne auprès de Barack Obama. Maître Dominique Tricot est en ligne. Bonjour, maître.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'avocat du fils du mécanicien disparu dans ce naufrage, oui, avec les quatre autres marins, Thierry Lemétayer. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Oui. Bien sûr, vous êtes dans ce dossier depuis toujours, si j'ose dire.
Non, depuis 2009.
Depuis 2009 seulement.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Parce que on fait cette émission spéciale parce qu'on a appris déjà il y a eu l'anniversaire des 10 ans.
Oui.
Et puis un petit peu après, quelques semaines après, on apprend que peut-être la justice s'apprête à clore le dossier, donc à prononcer un non-lieu. Et puis il y a le ministre des Armées, Jean-Yves Le Drian, qui reçoit les familles. Mais en fait, aucune décision n'a été prise. Quel est l'état du dossier pour vous aujourd'hui ?
L'état du dossier, c'est que le procureur de la République a demandé le non-lieu, la clôture du dossier, que le juge a du temps pour y répondre et que nous allons lui adresser cette semaine une note dans laquelle nous lui rappellerons tous les arguments qui nécessitent qu'il continue. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est une certitude, c'est que c'est un sous-marin. C'était une certitude pour les gens de la mer dès le premier jour, mais on a tout fait pour essayer de nous promener sur d'autres thèses. Rappelez-vous le cargo voyou, rappelez-vous Madame Maillot-Marie qui a menti, s'est établi maintenant sur l'existence de manœuvres semi-secrètes de l'OTAN. Donc je dirais que le sous-marin, il est judiciairement établi depuis qu'en 2008, les juges d'instruction ont reçu les familles de victimes et leur ont dit et ont écrit. Nous savons que nous avons les preuves désormais que c'est un sous-marin. Oui. Nous ne pouvons pas aller plus loin parce que nous ne savons pas lequel c'est. Nous allons clore le dossier.
D'ailleurs, ils ont été mutés, je crois, un peu après.
Tout à fait. Et à ce moment-là, la cour d'appel, la chambre d'instruction de Rennes, a dit non, on ne ferme pas, on continue à chercher lequel c'est. Mmh. Et ce qui me paraît très grave dans le réquisitoire qu'on reçoit, c'est que si le parc procureur disait « ça fait 10 ans qu'on cherche le sous-marin », on ne le trouvera jamais, je baisse les bras. Je ne dis pas que je serais d'accord, mais je pourrais l'entendre. Mais oser écrire aujourd'hui qu'on n'est pas sûr du tout que c'est un sous-marin et que ce n'en est sans doute pas un, c'est une insulte à la mémoire des victimes.
Ouais.
Ça, c'est inadmissible.
Vous voudriez qu'au moins la justice française déclare qu'au vu de l'instruction, de la longue instruction de cette affaire, l'hypothèse la plus vraisemblable est vraisemblablement la vérité.
Certaine.
Donc l'hypothèse certaine, je reprends, serait donc celle du sous-marin, mais que la justice finalement dit, ben voilà, nous n'avons pas les moyens d'investiguer pour découvrir cette vérité.
Ce serait le minimum. Et à ce moment-là, ce que je dirais, c'est que ce que nous dirions, Yann Kefelec apporte un certain nombre d'éléments sur l'hypothèse d'un sous-marin américain. Nous avons, et c'est pas contradictoire forcément du tout, nous avons, nous, des éléments très forts sur l'implication d'un sous-marin anglais qui a fait croire qu'il était hacké alors qu'il ne l'était pas.
Le fameux Turbulent dont on parlait avec Yann.
Exactement. Qui, comme par hasard, s'est fait prendre des câbles dans son gouvernail, alors que c'est justement un câble du Bugalet de Brèze, un câble du Chalut qui a été arraché. Et surtout, on a retrouvé, c'est presque énorme de le dire, on a retrouvé un journal qui n'est pas confidentiel de la marine anglaise, qui dit qu'au moment des faits, le jour des faits, il avait pour mission d'infiltrer un exercice de sous-marin sans se faire boire.
C'est ça, c'est ce que disait Yann Kefelec il y a un instant. Donc là, maintenant, qu'est-ce que vous faites, maître, enfin vous, je parle collectivement bien sûr, tous ceux qui sont dans ce dossier. Vous attendez une décision du juge qui va être soit je ne ferme pas, qui ne répond pas donc à la demande du procureur, qui ne va pas dans le même sens, soit qui va dans le même sens et qui dit je prononce un non-lieu, qu'est-ce qui resterait encore écoutez, judiciairement à faire?
C'est un secret de polichinelle que le juge veut rendre un non-lieu. N'insultons pas l'avenir, mais soyons réalistes. Nous allons néanmoins lui adresser une note reprenant toutes les charges. Et cette note, nous la rendrons publique. Tout le monde pourra se rendre compte qu'il y a des charges considérables. Si le juge rend néanmoins une ordonnance de non-lieu, nous ferons appel devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes. Rappelez-vous que lorsqu'une précédente clôture avait été demandée par le procureur en 2010, la cour d'appel de Rennes l'avait refusée et avait désigné le nouveau juge de Nantes.
Donc c'est possible. C'est possible
si, ça ne suffit pas, si ça ne suffit pas, nous irons devant la cour de cassation et devant la cour européenne des droits de l'homme. Et par ailleurs, nous avons saisi un avocat britannique, car la justice britannique donne plus de pouvoir dans ce type de procédure, plus de moyens d'aller dans les placards de la Navy, de la British Navy, que nous en avons en France.
Oui.
Donc, nous allons demander ça. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que il y en a qui connaissent pas les Bretons. Notre détermination est totale. et que ceux qui croient que le temps nous fera reculer, ceux qui croient que le deuil des familles pourra se construire sur ces mensonges, cela se trompe, et on la trouvera, la vérité.
Je vous remercie beaucoup, maître. Merci infiniment. Le mot de la fin de cette émission spéciale avec vous, Yann Kefelec, je rappelle, vous êtes écrivain de la marine. C'est une trahison pour vous, le fait que des marins, quelle que soit leur nationalité, ne donnent pas tout simplement à la justice leurs livres de bord. Les livres de bord, ça existe sur les bateaux, y compris sur les sous-marins. Ils sont où?
C'est un peu plus compliqué que ça.
On ne consigne pas ce genre de...
Non, sur les sous-marins, aucun marin sur à bord du sous-marin n'est au courant de la mission du sous-marin, à part le capitaine du sous-marin.
Mais enfin,
Non, c'est assez compliqué. La notion de secret est précieuse à bord du sous-marin, et elle doit l'être, normal. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend d'un sous-marin, c'est que si ça devenait, comme le disait Maître Tricot tout à l'heure, et j'apprécie qu'il ait parlé justement du moral des Bretons dans ce genre d'affaires, il est important que le secret reste à bord des sous-marins. Il n'empêche que la marine française, moi j'ai parlé de nombreuses fois avec des sous-mariniers français, avec des marins français, et je les ai vus devenir rouges de colère et d'indignation lorsque je semblais les soupçonner d'avoir pu cacher quelque chose. D'accord. Ou faire semblant d'ignorer quelque chose. Non, il y a un véritable sens de l'honneur dans la marine française.
Merci infiniment, Yann Kefelec. Je renvoie tous ceux qui sont passionnés par ce dossier à votre livre. On l'appelait Bugalette Braise, aux éditions de l'Archipel, en coédition avec les éditions du Rocher. Bugalette Braise, l'enquête torpillée de Jacques Lauzet. On mettra tout ça sur RTL.fr, bien sûr. Et les projections du Silent Killer, le tueur silencieux, à trouver sur les sites internet qu'on va rappeler sur RTL.fr. L'émission est terminée. Au revoir, à bientôt.